Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tour 99.5. Ce soir, je suis en compagnie de Delphine Lujan. Bonjour Delphine, ça va ?
Bonjour, ça va bien, ouais.
Et je suis aussi en compagnie de Cam. Ça va, Cam ?
Salut.
Alors, mes invités aujourd'hui sont élèves à l'ITS de Tours en éducation spécialisée et ils viennent nous parler de leur voyage à l'étranger pour leur deuxième année. Ma première question, ce serait... Dans quel contexte est-ce qu'on fait ce deuxième stage, du coup en deuxième année d'éducation spécialisée ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est pour tout le monde ?
Bon, alors je vais commencer.
Allez-y, ouais.
Du coup, c'est une proposition qu'on nous fait d'avoir la possibilité de partir à l'étranger sur la deuxième année, donc sur notre deuxième stage. Donc on nous le propose et on nous demande de monter un dossier, donc de rechercher une structure sur place, de se renseigner sur ce qui se passe sur place pour pouvoir justement... proposer à l'école de vouloir partir à cet endroit-là. Donc on peut partir au nombre qu'on veut. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est de financer nous-mêmes notre voyage, en sachant qu'il y a quelques bourses qui peuvent aider, mais c'est pas mirobolant. Mm-hmm. Voilà. Après,
Pour le coup, toi, tu es parti au Togo.
Mm-hmm. Du coup, tout à fait.
Tu as dû avancer les frais pour le voyage, pour vivre sur place et pour revenir ?
Oui, tout à fait. Okay, pour l'hébergement, pour la nourriture, pour le billet, le visa, les vaccins, voilà, tout ce qu'il y avait besoin pour le voyage.
Ok. Et voilà. Du coup, toi, Cam ?
Eh ben, moi, je suis parti au Laos, donc.
Yes.
Oui, c'est pareil. En fait, il faut vraiment faire un budget prévisionnel pour que l'école ne nous laisse pas partir et qu'on se retrouve le bec dans l'eau quand on arrive et qu'on ne soit pas pris en charge par les structures ou quoi.
Et comment vous avez fait du coup pour vous renseigner en amont sur ce qui pouvait se passer sur place, en sachant que le Laos et le Togo ne vont pas forcément être des pays très accessibles, enfin, peut-être en termes de communication de ici à là-bas, du coup, comment vous y êtes pris ?
Alors moi je sais que personnellement j'avais une petite angoisse au départ parce que j'avais entendu pas mal parler de ça, que sur internet on pouvait trouver tout et n'importe quoi au niveau des ONG et que parfois c'était pas des vraies ONG et qu'on se faisait avoir. Donc moi j'ai demandé directement à mon formateur à l'ITS qui m'a donné du coup les adresses d'ONG qu'il connaissait et qu'il en était sûr qu'elles soient sûres.
D'accord. Et pour toi, du coup ?
Bah moi, c'était beaucoup plus facile parce que mon père est laotien.
Okay.
Et du coup, lui, il avait dans ses connaissances une personne qui a travaillé dans l'ONG où j'ai été. Donc, en fait, c'était un peu du bouche à oreille et du piston, si on veut.
Et un poil de piston.
Mais bon, faut bien que ça serve.
Parfait. Du coup, vous êtes parti à peu près à quelle date sur vos voyages respectifs ?
Alors, moi, je suis parti du 21 septembre 2017 au 3 janvier 2018.
D'accord.
Voilà, 3 mois et demi.
Et du coup, Cam nous a dit pourquoi le Laos, mais pourquoi toi le Togo ?
Alors, on m'avait proposé le Togo ou Madagascar.
Qui t'a proposé ?
Donc, mon formateur d'accompagnement, qui du coup m'a proposé ces deux destinations. J'avoue que j'ai toujours été attirée par l'Afrique noire, dirons-nous, et que j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir aller en voyage là-bas. Donc, c'était aussi l'occasion de pouvoir y aller, on va dire, en toute sécurité, parce que... on a l'appui de l'ITS et puis voilà, et puis dans une ONG sûre, donc on sait que ça va bien se passer.
Et l'ITS se porte garant de votre sécurité sur place ou pas du tout ?
Il s'en porte garant sur le papier. Après, après voilà, ouais. On est inscrit au niveau de l'ambassade. Enfin, moi personnellement, j'étais inscrit à l'ambassade française, donc je recevais régulièrement des emails s'il y avait des endroits où il fallait pas que j'aille, où ça craignait un petit peu. Enfin voilà, quand c'était un peu chaud, on recevait des mails.
Donc là, pour recontextualiser, en formation d'éducation spécialisée, vous avez dû faire un stage, enfin vous avez voulu faire un stage à l'étranger. Comment on choisit sa structure ? Comment on détermine sur place si on va plutôt être auprès du handicap ? Est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on n'a pas le choix ? Comment ça fonctionne ?
Alors pour le coup, moi je passais par une ONG, donc c'est l'ONG qui m'a trouvé mon stage, donc qui m'a demandé un petit peu dans quel genre de stage je pouvais déjà aller.
Une ONG française ?
Alors, une ONG franco-togolaise.
D'accord.
Voilà. Ils ont une antenne en France et une antenne au Togo. Après, c'est venu directement sur une école, sur un institut médico-éducatif qui accueillait des enfants atteints de handicap mental.
D'accord.
Après, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas aller dans les mêmes stages. Enfin, comment dire ? J'avais déjà un stage de prévu pour la troisième année dans le handicap, donc ça a un petit peu freiné les choses au niveau de l'ITS, puisqu'on n'a pas le droit de faire plusieurs stages dans le même domaine, on va dire. Après, c'est passé. Donc après, c'est passé parce que c'était deux handicaps différents dans mes deux stages différents. Mais voilà, du coup, du coup, on fait pas non plus ce qu'on veut, quoi.
Et du coup, pour toi, Cam, comment t'as visualisé le truc? Tu t'es dit, déjà, est-ce que tu savais que tu voulais aller au Laos directement? Est-ce que t'as cherché? Et comment t'as choisi ta structure? On a eu un peu de piston, mais je pense qu'il y avait aussi une envie derrière. Parce que si ça te faisait chier, je t'y serais pas allé, je pense.
Pardon. Donc moi, moi j'ai fait d'une pierre deux coups parce qu'en plus j'ai été voir de la famille qui était sur place et puis ça m'a facilité aussi pour l'hébergement, les déplacements, tout le niveau logistique on va dire. Après je savais déjà quelle était la population qui était dans cette structure. Donc en fait c'est Village Focus International, c'est une ONG qui est américaine et qui j'étais donc sur un refuge à Vientiane, la capitale. Qui accueillait des jeunes filles de 13 à 22 ans qui pouvaient être victimes de trafic humain, mais sous toutes ses formes. Donc ça peut être aussi bien de la prostitution, du travail domestique ou travailler dans des usines ou des plantations pour un salaire qui est vraiment minime, voire quasiment nul. Parce que souvent, c'est des jeunes filles qui sont issues de minorités ethniques ou de campagne qui vont chercher, un confort économique en Thaïlande souvent et ils sont repoussés à la frontière et ils sont identifiés comme des personnes vulnérables en fait.
D'accord. Et du coup au sein de cette structure, c'était quoi tes missions? Parce que du coup tu étais stagiaire dans un milieu qui devait pas être forcément facile. Quelle mission on t'a donné? Voilà, c'est tout. J'ai fini ma question.
Alors, moi, vu que j'étais sur un stage relativement court, et en plus, il y avait la barrière de la langue, parce qu'ils ne sont pas francophones du tout. Donc, moi, je parle un petit peu laotien. Et après, il y avait quelques, sur l'équipe de 6-7 travailleurs sociaux qui étaient là-haut, il y en avait 2-3 qui parlaient anglais. Donc, j'essayais de parler anglais avec eux, mais aussi, le but, c'était aussi pour moi d'apprendre mieux le laotien. D'ailleurs, je ne l'ai jamais aussi bien parlé du coup que quand je suis reparti. Mais ouais. et du coup, en fait, j'étais plus sur des temps collectifs. Et la plupart du temps, je donnais des cours de français, en fait. Donc, je leur apprenais des cours d'anglais, pardon. Donc, je leur apprenais l'anglais et en même temps, elles m'apprenaient le laotien. Donc, ça, c'était cool parce qu'on était sur une même échelle. Il n'y avait pas de posture dominante par rapport à un éducateur ou quoi que ce soit. Et après, j'ai fait j'ai accompagné sur des sorties pour découvrir des monuments, parce que même en tant qu'habitant du Laos, il y a des monuments connus qu'ils n'ont jamais vus. J'ai fait 2-3 cours de cuisine, et puis sinon des animations sur des groupes avec des lycées, le lycée international de la capitale, enfin voilà, différentes choses.
D'accord. Et pour toi, Delphine, du coup, tes missions un peu?
Alors, moi, je suis arrivée là-bas, on m'a appelée directement éducatrice. On m'a dit, de toute façon, tu viens de France, donc tu dois savoir. Alors, c'était un petit peu l'angoisse au départ, parce que moi, je n'arrivais pas dans cette optique. Pour moi, ils pouvaient m'apprendre autant que moi, je pouvais leur apprendre, et je n'avais pas envie d'arriver en disant, je suis le blanc qui sait tout et je vais tout vous apprendre.
Tu parles des professionnels ou du public?
Les professionnels, surtout.
D'accord.
Donc en fait j'étais déjà dans l'observation au départ pour pouvoir voir un petit peu leurs méthodes. Alors il y a des méthodes très choquantes, surtout en lien avec les sanctions. J'ai été dans l'aide surtout pour la communication, parce qu'il y a beaucoup d'enfants là-bas en fait qui ont un handicap qui fait qu'ils communiquent pas du tout. Et en fait, eux avaient l'objectif de réussir à les faire parler, mais de façon verbale. Donc moi, je leur ai expliqué qu'en clair, on pouvait utiliser des images pour mieux arriver à se comprendre. Donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai pas pu travailler forcément sur l'objectif principal qu'ils avaient, de rendre les enfants dits normaux, je le mets entre guillemets. Parce que, comment dire ? C'était compliqué au niveau de l'objectif principal chez eux. Après, ils étaient beaucoup en manque de connaissances sur le handicap. Donc, ils étaient en demande auprès de moi pour que je leur donne un petit peu des informations. Donc, j'ai essayé de chercher dans les cours que j'ai pu avoir, dans les connaissances que je peux avoir et tout ça. Mais après, Ouais, c'est à peu près tout. Après, il faut dire que le timing en Afrique est très, 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 très lent. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de temps de sieste que de temps de travail. Donc, voilà. Du coup, bah, j'ai bossé pas mal en perso, mais du coup, avec les enfants, c'était plus compliqué, du coup, d'avoir des temps avec eux.
Et est-ce que mutuellement, vous avez... enfin, individuellement plutôt, vous avez... Les structures avaient déjà reçu un stagiaire ou vous étiez les premiers? Vous savez ça?
Moi, je sais que régulièrement, ils recevaient des volontaires ou des stagiaires.
Ok. De France, du coup?
Ouais, de France, Allemagne, je crois qu'ils ont reçu d'Italie. Mais oui, d'Europe, en tout cas, ils en ont reçu plusieurs.
Ok.
Oui, moi aussi, il y avait peut-être des Français ou des Allemands, enfin des pays d'Europe. Mais en fait, eux, l'objectif, c'est de travailler vraiment avec la population locale. Et 90% du staff, c'est des Laotiens.
D'accord.
Et pour justement avoir une communication et travailler vraiment sur le réseau en campagne, etc., pour faire de la prévention sur, sur tout cet aspect-là d'accès aux droits, des risques du trafic humain, etc. Donc c'est pour ça qu'ils privilégient quand même les Laotiens, quoi.
Bah parfait, on va faire une petite pause de musique et puis on va revenir ensemble juste après. Donc là je vous propose un morceau de Maxwell Nostar et Itam. Donc Itam, c'est celui qui a fait toutes les prods. Il a fait des prods pour Furax, Davodka, donc tous les Parisiens, Hugo TSR aussi. Là c'est un rappeur tourangeau qui commence à pas mal monter que je voulais vous présenter. Et du coup le morceau s'appelle Soulé et c'est un extrait de son album qui ne va pas tarder à sortir.
Itam prod. Kids of Crackling. Ok. J'parais saoulé. La routine au goût amer dans la rétine. Même des cordes puis des piges dès que j'sors. J'parais saoulé. J'cours du matin au soir pour des sommes qui mettront jamais comme j'voulais être gosse. J'suis mon cam essoufflé. Poignée liée, cam isolé dans la ville. Comme emprisonné. Pas paresseux, c'est pour une raison que j'parais saoulé. J'parais saoulé. J'trouve le temps long d'être un mât, ils me tendent le ton bas. J'prends le taureau par les cornes si j'm'assois sur le trône des camps. Ils parlent de gens, arrête bitch, fuck ils ont feuille. Walou sur la feuille, faut qu'ils stoppent ça et vite. On a le bail et le dièse sérieux, l'écart est net. Entre eux et Wam, c'est couru d'avance. Waouh, c'est ce qu'ils balancent à chaque prose que j'lance. Pas ouais, ils veulent tous que j'flanche. On les bouge de là, allez ouz, ciao. On met des boulevards, fuck à gauche, à droite. Vu que c'est tout droit que j'fonce. MAX no star, t'as reconnu le guerre. Itam derrière, c'est pas sur Ster qu'on les fera twerker. Ternel le décor, les carottes ils te serrent à chaque peine. On garantit le cierge à chaque homme. Pas de mystère hélas. À quoi bon cerdre ça c'est le passé quand t'es sous terre. J'parais saoulé. La routine au goût amer dans la rétine. Même des cordes puis des piges dès que j'sors. J'parais saoulé. J'cours du matin au soir pour des sommes qui mettront jamais comme j'voulais être gosse. J'suis mon cam essoufflé. Poignée liée, cam isolé dans la ville. Comme emprisonné. Pas paresseux, c'est pour une raison que j'parais saoulé. Parsemé d'embûches et le terrain. Dans mes skates bas, je reste stable. Je fais mon job à plein temps comme flex tabeux. Ils veulent me voir loin, je reste là. Je baise la caisse claire, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que t'espérais de moi, je suis pas dans leur moule, mais dans leur bouille. Dès que je vois un couplet, Max le paratonnerre qui tutoie la foule. J'accours jamais, à la cool, je balaye tout. J'ai vu des wacks faire des poignées de punchline sans articuler. J'avance dans l'ombre, dégâts de l'ombre et je traîne toujours le smile. Ils miment des gueules, mais prennent des gifles face à la vie. Je dématérialise mon quotidien pour voir clair dans le vice des teupudés qui se pointent. Enclin à taper fort dans leur ratiche sans le moindre effort. Je traîne dans le coin sans bomber le torse la nuit. Les toughs m'animent quand je pose ma lida du coffre. Ici on garde la tête haute même si t'écorches la vie. J'parais saoulé. La routine au goût amer dans la rétine. Même des cordes puis des piges dès que j'sors. J'parais saoulé. J'cours du matin au soir pour des sommes qui mettront jamais comme j'voulais être gosse. J'suis mon cam essoufflé. Poignée liée, cam isolé dans la ville. Comme emprisonné. Pas paresseux, c'est pour une raison que j'parais saoulé. J'parais saoulé.
Au taf,
j'parais saoulé.
Au mic,
j'parais saoulé.
De jour comme de night,
j'parais saoulé.
Hein? Ils me parlent de carrière.
J'parais saoulé.
Qui nique leur mère.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 et je suis toujours en compagnie de Cam et de Delphine. Comment ça va ?
Ça va toujours.
C'est ma question préférée sur les interviews. C'est... Souvent, je me doute de ce qui va être répondu. J'adore, j'ai l'impression d'être un devin, c'est génial. Du coup, pour recontextualiser, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Cam est parti en stage du coup d'éducateur spécialisé en deuxième année au Laos et Delphine est partie au Togo. De quoi ? C'est tout bon, hein ?
Oui, ouais, non, on dit qu'on est en troisième année,
là, c'était
le stage de deuxième année l'année dernière.
Ils sont revenus.
C'est important de le préciser.
Moi, je voulais parler maintenant avec vous de... bon, ça va pas être très objectif maintenant que vous êtes revenus, mais comment vous vous sentiez avant de partir et quelles idées vous aviez sur le pays et sur ce qui vous attendait, en fait.
Alors, moi, je m'attendais à tout et à rien en même temps. Je me disais juste que quand j'allais aller là-bas, j'allais poser mon cerveau avant de partir. Je m'attendais à voilà, je m'attendais à avoir de la pauvreté, mais sans savoir à quel niveau. Je m'attendais un peu à rien en particulier. Voilà, j'avais pris des infos tout ça, mais après c'est différent quand on arrive sur place.
Est-ce que t'avais peur des clichés qu'on peut avoir du coup et de te les garder, d'arriver sur place et de tomber sur complètement quelque chose de différent ?
Alors, les clichés, c'est pas moi qui les avais, c'est plus les gens de ma famille ou mon entourage qui étaient « Oh mon Dieu, où est-ce que tu vas ? Mais c'est dangereux, mais... Enfin, voilà. En plus, tu pars toute seule. » Enfin, voilà, c'était l'angoisse générale. Moi, pas forcément, j'étais entre le côté excité, entre le côté, ben, en fait, j'ai tellement peu d'infos que sur là où je vais arriver que, ben, wow, on verra bien. Voilà, non, j'ai pas... Je me suis dit qu'on verrait bien.
Ok, d'accord. Ouais. Et pour toi, Cam ?
Bah moi, j'avais déjà été au Laos 3 fois auparavant avec ma famille. Donc je connaissais déjà bien la culture, les coutumes, etc. La vie un peu là-haut. Même si c'est la première fois que je partais aussi longtemps, parce qu'à chaque fois c'était peut-être 2-3 semaines maximum. Par contre, au niveau social, je connaissais rien du tout et je savais pas qu'est-ce qu'il y avait déjà en place au niveau des politiques sociales ou des différents types de structures qu'il pouvait y avoir. Donc là, c'était une vraie découverte, mais j'avais pas d'a priori spécifique ou de peur par rapport au public que je pouvais recevoir.
Et alors. Ça a été quoi vos premières impressions quand vous avez atterri, du coup ? Vous avez posé le pied sur le territoire. J'aimerais bien avoir un peu vos retours sur... là, j'arrive, ça y est, j'y suis, quoi. Et comment vous étiez...
Moi, j'ai eu envie de faire demi-tour. Non, non mais c'était tellement accueillant à l'aéroport que vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? S'ils sont aussi accueillants, je vais faire demi-tour. En fait, je suis arrivée au niveau de... Il y a une première... comment dire ? On nous arrête une première fois pour voir notre carnet de vaccination. Je savais pas qu'il fallait l'avoir sur moi, donc j'avais peur de l'avoir dans la valise. J'ai dû vider toute ma valise cabine pour chercher ce carnet de vaccination, avec le monsieur qui hurle à côté en disant « Dépêchez-vous ». Après, j'ai passé au niveau de la douane. Là, il fallait des numéros de téléphone que je n'avais pas sur moi, donc ça a été encore un peu d'angoisse. Et quand je suis sortie avec ma valise juste devant l'aéroport, ben, la personne de l'ONG n'était pas là. Donc il était 20h et quelques, il faisait nuit, j'étais dans un pays que je connaissais pas, avec des gens qui voulaient tous me parler autour de moi, mais que je ne connaissais pas, et pas les personnes que j'attendais, donc à vrai dire, je me suis dit, je sais pas où je suis, mais si ça se passe comme ça, je vais faire demi-tour maintenant. Voilà, après, bon, tout s'est bien déroulé, mais c'est vrai que les premiers instants ont été un peu compliqués.
D'accord, et du coup, ça a été comment l'accueil quand t'es arrivé sur la structure ensuite ? T'as rencontré directement les enfants ou t'ont laissé un temps de latence pour t'habituer à l'endroit ?
Alors le premier soir, en fait, je suis allée chez le directeur de l'ONG qui m'accueillait. Et en fait, je suis pas allée à l'école tout de suite. J'ai d'abord travaillé au sein de l'ONG pendant une semaine parce qu'il y avait des grèves sur place qui ont fait que la rentrée était repoussée. Donc j'ai travaillé un peu au sein de l'ONG avant de rencontrer les enfants. Les enfants, je les ai rencontrés une première journée. Ou voilà, c'était juste bonjour, je m'appelle Delphine, et puis c'était à partir du lendemain où du coup j'ai pu vraiment rencontrer les enfants et faire connaissance avec...
Ils parlent français là-bas ?
Ils parlent tous français, oui. Okay, alors d'accord. Après, les enfants, selon leur niveau, parlaient pas forcément français parce qu'ils l'avaient pas encore appris ou l'avaient pas assimilé, donc c'était un peu plus compliqué, mais sinon ils parlent tous français. Après, il y a une 50aine de dialectes différents locaux,
voilà. D'accord. Et pour toi, Cam, est-ce que tu voyais ça compliqué, enfin, comment, que le climat soit compliqué sur place? Enfin, tu connaissais déjà un peu, comme tu as dit, mais est-ce que la structure, en fait, le public, est-ce que tu t'attends à ce que ce soit quelque chose de difficile ou pas? Et du coup, comment ça s'est passé quand tu es arrivé, du coup, dans l'établissement?
Ouais, justement, c'est, enfin, à chaque fois que j'en parle avec les collègues de promo ou les personnes qui m'interrogent sur ce stage-là, quand je leur parle du public et que je leur dis que c'était des victimes de trafic humain, tout de suite on me dit oh, ça devait être super dur et tout. Et en fait, bizarrement, non, parce que le truc, c'est que j'ai pas eu accès aux histoires de vie, vu qu'ils considéraient que j'étais sur un stage court. Et du coup, en fait, moi, j'ai vu que des temps collectifs. Il y avait quasiment pas de temps individuel, mais enfin, oui, il y en avait, mais c'était pas d'autres professionnels qui s'en occupaient. Et du coup, tout le monde était dans une bonne humeur. Enfin, c'était une ambiance très familiale, très chaleureuse. Tout le monde, toutes les jeunes filles toujours très souriantes, etc.
D'accord.
Et pour moi, c'était vraiment que du bonheur, quoi, parce que
Ok.
j'avais pas ce côté pesant de savoir ce qui leur était arrivé, leur parcours, les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer, etc.
Et toi, Delphine, t'avais accès au dossier ou pas? Même si c'est pas les mêmes problématiques, du coup, vu que là c'était maladie mentale.
Alors c'est plus le mot dossier. Alors j'avais accès aux histoires, aux observations que les encadrants avaient pu faire. Après c'est pas comme on peut l'entendre en France avec on appelle ça légiféré. Là voilà, c'est des petites notes vite fait marquées parce qu'on a remarqué qu'il arrivait à boire tout seul ou à manger tout seul. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de dossier. Il y avait un dossier, on va dire, d'accueil où c'était juste un questionnaire rempli par les parents. Après, moi, il y avait certaines questions qui ont pu me choquer, mais parce qu'on n'a pas l'habitude de poser ces
Comme
questions-là en
quoi?
France. Comme
Bien
l'origine
sûr, je
du
pose des
handicap.
questions, mais si vous voulez pas répondre aux
Oui, pas
questions.
de souci. Sur l'origine du handicap, par exemple,
Ok.
où les questions, c'était sur le côté religieux, sur le côté est-ce que c'est un ancêtre qui a été puni? Est-ce que c'est un mauvais sort qu'on vous a jeté? Est-ce que, voilà. Il y avait un peu plus de causes, on va dire, au handicap que nous, on peut l'entendre en France. Donc
Des
ça m'a un peu
maraboutages.
tilté, voilà, sur le début, ça m'a un petit peu tilté. Après, bon, voilà, on fait avec la culture aussi et leurs croyances, quoi.
Bah, tu me fais une très bonne transition. Du coup, tu disais par exemple que sur les punitions ou les sanctions, c'était très différent là-bas d'ici. La question s'adresse à vous deux. Du coup, c'est quelles sont les grosses différences que vous avez vues entre ici et là-bas?
Alors, donc la plus grosse différence, on va dire, la sanction,
En quoi, du coup, si
la
tu peux développer?
manière, on va dire, d'éduquer l'enfant, s'il fait quelque chose de mal, c'est un coup de bâton ou un coup, tout simplement.
De la part du secteur social et des
Dans le
parents.
secteur social, dans les parents, dans un instituteur face à des enfants, enfin voilà. Après, comment dire? À l'école, souvent il l'expliquait sur le fait que bah, y ait un instituteur pour 80 enfants à peu près. Donc il
Ah
y a un
oui.
moment, la seule façon c'est de faire ça. Qu'en plus, dans la religion, ils auraient parlé du fait que bah, pour punir l'enfant, c'est à coup de bâton, sinon il mettrait la honte sur sa famille.
Il s'appuie sur quelle religion?
Catholique,
Ok.
excusez-moi. Voilà, donc du coup ça paraissait normal là-bas. Effectivement, moi ça m'a un petit peu choqué, même si effectivement il y a des dizaines et des dizaines d'années ça se passait aussi comme ça en France. Donc après, bon voilà. Et puis du coup, bah, c'était le timing aussi qui m'a beaucoup choqué. Parce qu'effectivement, beaucoup de pauses, parce qu'eux étaient surpris quand ils me voyaient courir de partout, faire des choses et qu'ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pose-toi. Je dis, ben non, je suis au travail, donc je travaille. Enfin, voilà. Donc c'est une autre vision du travail, on va dire, qu'on a. Voilà. Après, je dis pas qu'ils travaillent pas, hein, parce qu'ils sont debout à 5 h du matin et ils se couchent, il est 23 h, mais c'est plus cool, sur la longueur de la journée, quoi. Voilà.
Ok. Et pour toi?
Moi, c'est marrant aussi parce que le rythme, il est un peu pareil. C'est doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Et du coup, il pouvait être assez surpris de tout ce que je pouvais être capable de faire en une journée, parce que moi, des fois, je pouvais avoir des côtés un peu speed. Par contre, au niveau de la des jeunes filles qui étaient accueillies, moi, c'était un peu, enfin, j'étais agréablement surpris dans le sens où comparé à des structures qu'on peut avoir en France sur des maisons d'enfants à caractère social ou des foyers, des choses comme ça. Surtout pendant la période de l'adolescence, on peut avoir des jeunes qui sont assez rebelles, à faire des fugues, à parler mal aux éducateurs, des choses comme ça. Et là-bas, bon, après, c'est aussi culturel, mais c'est pour ça aussi qu'il y avait aussi cette ambiance joyeuse un peu tout le temps, parce que perdre la face chez eux, ça se fait pas, quoi, en fait. Il faut toujours rester digne. Etc. Et puis il y a aussi le respect des anciens, des plus âgés. Donc ils sont vraiment très très respectueux et très très calmes, souriants toujours. Okay. Donc voilà.
Et du coup, la question un peu bâtard, si je puis dire, entre grandes guillemets, pour contre la censure, une journée type dans votre structure. À peu près, hein. Une journée type, ça ressemble à quoi? Vous commencez à quelle heure? Vous finissez à quelle heure?
Alors, vous faisiez quoi aussi? C'était le début à 7h30 où on accueillait les enfants. Après, il y avait un genre d'appel où c'était plus... Alors, ils devaient dire une prière, ils devaient réciter l'hymne national et ils devaient dire quel jour on était. Enfin, voilà. Après, on commençait les cours jusqu'à... De 8h à 9h30, je crois. Ou 8h à 9h. Après, on avait trois quarts d'heure de pause. On repartait pour un cours... des activités jusqu'à midi. Et puis après, de midi et quart, parce que le repas était vite bouclé, de midi et quart à 2h, 2h30, c'était la sieste.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde. Donc, éducateurs compris. Hein, on les voyait tous sur les tables ou sur des tapis en train de dormir. Et on finissait à 3h. Donc voilà, la demi-heure, c'était pour accueillir les parents en plus. Voilà.
D'accord. Et du coup, je vais venir à toi juste après, Cam. Les objectifs de la structure, quels étaient-ils?
Alors, l'objectif général, c'est que l'enfant puisse repartir dans le milieu ordinaire.
Ok. Mais c'est des enfants qui ont des problématiques psychologiques, on est d'accord?
Oui, tout à fait. Okay. Donc pour 90% de ces enfants-là, ça sera juste impossible. Après, ils ont quatre groupes différents de niveaux. Et ils ont également, du coup, sur un des quatre groupes, de la professionnalisation, donc de l'apprentissage sur alors de l'agriculture. Là, ils n'avaient plus de terrain, donc il n'y avait pas d'agriculture. Et sur de la cordonnerie. Donc voilà. Et quand c'était après possible, ils devenaient cordonniers et puis ils traçaient leur route.
Ok.
Voilà.
Pour toi, une journée type, Cam?
Alors moi je faisais du 9h-18h en gros, le matin, en fait il y avait deux groupes, ils étaient scolarisés en fait soit le matin soit l'après-midi, et l'autre demi-matinée ils étaient au refuge, donc le matin en fait il y avait un groupe qui partait et un groupe qui restait, donc là je faisais un cours le matin pour quelques élèves d'anglais, et après le midi, donc tout le monde revenait... manger au foyer, donc on mangeait tous ensemble avec les professionnels et les jeunes filles, et l'après-midi ceux qui étaient là le matin partaient à l'école et inversement, donc j'avais un autre groupe l'après-midi. Mais il y avait également en fait au sein de la structure des professionnels qui les forment sur des métiers ils apprennent et à l'école mais aussi sur le refuge, donc ça pouvait être des cours de cuisine, des cours de couture et de tissage, tout ce qui est coiffure et esthétique, on va dire, et aussi des fois sur du jardinage ou de l'élevage, pour justement les réinsérer dans des métiers accessibles et faciles à apprendre.
D'accord. Et pour les objectifs du coup de la structure pour ces jeunes filles, c'est quoi?
Alors déjà, c'est de leur fournir un hébergement sécurisé, d'avoir une alimentation équilibrée, etc. D'avoir des soins physiques et psychiques si besoin. Et la formation à un métier et puis l'éducation de base pour pouvoir justement les réintégrer dans la société. En fait, j'étais sur un programme qui était appelé protection et autonomisation des femmes et des enfants.
D'accord.
Donc il aurait pu être mixte, mais en fait, par la force des choses et la population qu'ils ont recueillie, après ça a été que des femmes sur ce refuge-là en tout cas.
D'accord, bah parfait. On va se faire une petite pause de musique et puis on va revenir pour la fin de cette émission. Là, je vous propose un morceau de Noza Jazz et P1. Donc c'est un album qui est sorti, un EP qui est sorti il y a 4 ans. C'est un rappeur et un beatmaker tourangeau. On s'écoute ça, à tout de suite, sur Radio Campus Tour 99.5.
Qui ont une certaine temporalité et qui nous rapprochent de l'idée de temps. Mais dans la course, on est couplé de façon directe tout en physique. On est, en quelque sorte, en train de chiquer du temps pur.
Faut que je me bouge, le monde tourne trop vite et les aiguilles tournent. Marque de tourner en rond, je cogite à l'heure où les pensées fusent. Mon esprit est comme pétrifié devant les idées que projette mon plan, c'est rude. Le temps est monétisé et je me sens à l'écart de tout. C'est fou, j'éprouve la peur de trop m'épuiser. Risé depuis l'enfance, on est briefé à suivre la bonne route, mais je n'ai jamais su la concrétiser. Habitué à freiner le pas quand les choses s'accélèrent face au danger. Par sûreté, je rétrograde sévère à croire que j'avancerai. Menacé par les coups de ceinture, la pression constante et la conscience que tout cela dure. Si je m'offre un peu de conscience, comment pourrais-je croquer la vie à pleine dent? Si elle a un goût de peinture, c'est la course et moi je traîne au fond du groupe, j'assure. Pour mener mon bout de train, non loin des anneaux de Saturne.
Faut que je me bouge, faut que je me bouge,
non loin des anneaux de Saturne.
Faut que je me bouge, faut que je me bouge,
non loin des anneaux de Saturne.
Faut que je me bouge, faut que je me bouge,
non loin des anneaux de Saturne.
Faut que je me bouge.
Faut que je me bouge, ouais. L'info circule à vitesse grand V. Patiemment j'attends un GPO de secours. Je regarde autour de moi et je constate que les pas s'enfilent, que les pas sont vides. Mais qu'on stagne dans nos passions vu que la route inéterne. J'oublie mes tracas, le temps d'une chanson triste et claire. De génie pour oublier mon sale sort d'homme. J'aspire à sauver celui des autres comme Flash Gordon. Parfois le site je peux déplacer des montagnes pour elle. Mais dans ma tête je parle déjà de ex-compagne. Tout va trop vite et on peut agir en secret. Pour la révolution contre un régime dont les manières manigances traînent. J'suis loin de suivre la cadence, j'essaie. Mais j'ai du mal avec ce qu'on leur prête d'apparence. Pour être honnête, j'flippe. Car même sur la bonne voie, Usain Bolt peut se retrouver sur la mauvaise piste.
Faut que je me bouge, faut que je me bouge,
non loin des anneaux de Saturne.
Faut que je me bouge, faut que je me bouge,
non loin des anneaux de Saturne.
Faut que je me bouge, faut que je me bouge,
non loin des anneaux de Saturne.
Faut que je me bouge.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5. Je suis toujours en compagnie de Cam et de Delphine qui sont à l'ITS de Tours, donc l'école de social, de social. En éducation spécialisée et lors de leur deuxième année, je précise, ils sont en troisième année, ils ont été à l'étranger, au Togo pour Delphine et au Laos pour Cam. J'aimerais bien qu'on parle un peu de... Du coup, on en parle un peu en off. C'est un peu biaisé, mais comment vous êtes senti dans le pays et des anecdotes qui vous sont arrivées, des choses dans le pays qui vous ont marqué, qui vous ont touché, qui vous ont déplu. Voilà.
Je sais que moi j'ai été très 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 bien accueilli par les gens du pays, qui sont très accueillants, très sympas, on devient amis avec tout le monde. Du coup, bah, en fait, 3 mois et demi, c'est pas juste un voyage, c'est vraiment... on y vit là-bas. Donc moi, je sais que je m'étais fait une petite vie dans mon quartier. Je sortais, je disais bonjour à tout le monde, je connaissais tout le monde. Enfin, j'allais dans mes magasins, voilà. Très à l'aise là-bas. Le retour a été du coup très très compliqué parce que je m'y sentais très très bien. Je m'y sentais presque mieux qu'en France. Donc voilà, des valeurs que j'ai pu retrouver, comme je disais en off.
Quoi comme valeur?
La solidarité, je dirais. Le côté... alors, ils sont très communautaires. C'est-à-dire,
ça qui est drôle,
si
c'est...
ton voisin va pas bien, si, voilà, si ça va pas, si tu le vois pleurer, s'il est sur le bord de la route pas bien, il y aura toujours quelqu'un pour l'aider. Ici, moi, je peux tomber dans mes marches, ça sera pas mon voisin qui s'arrêtera, il m'enjambera au pire.
Oui, mais... c'est ça. Tu deviendras marche.
Donc voilà, effectivement, voilà. Après, alors c'est horrible à dire, mais c'est un peu ça, quand on est une personne blanche là-bas, on peut pas forcément se cacher, que tout le monde a envie de nous parler. Donc en fait, dans la rue, on passe notre temps à dire bonjour à tout le monde. Alors ils disent tous bonjour déjà. Et effectivement, quand on arrive en France où personne te regarde et il n'y a plus personne qui vous dise bonjour, ça fait bizarre. Voilà. On se sent un peu invisible et ouais, ça fait bizarre du coup. Mais bon, voilà. Après, des fois, on est un peu mal à l'aise parce que j'ai pas envie d'être une star. Donc, j'en rigolais en disant c'est Miss France qui arrive au Togo. Mais voilà, c'est un peu compliqué parfois. Mais voilà, après j'ai vécu des super bons moments et ouais, après je sais pas, je vais réfléchir pour une anecdote et je vous reparle après.
C'est ça. On te met sur messagerie. Cam,
tu peux me répéter la question?
Du coup, ma question qui était, attends, je réfléchis. Comment tu te sentais du coup là-bas, mais en dehors de ta structure, du coup, avec le quotidien, avec les gens.
Bah moi, c'est un peu pareil. Je connaissais déjà la culture et puis. Une culture à laquelle je suis attaché, donc moi c'est pareil, je me sens plus chez moi au Laos qu'en France limite, par rapport à tout un tas de choses, à des valeurs, à cet aspect communautaire, ce respect, cette entraide mutuelle permanente, et puis cette douceur de vivre, ce temps un peu suspendu par rapport à tous les masses médias qu'on peut avoir ici, les pollutions de sociétés, de grosses mégalopoles, etc., qu'on peut avoir ici. Là-bas, c'est vraiment une des rares capitales qui est encore à taille humaine et sur lesquelles ils essayent de préserver ça, même s'ils essayent de s'ouvrir comme le font les autres pays, le Vietnam, la Thaïlande ou des choses comme ça. Mais ils sont quand même très attentifs à garder leur tradition et leur mode de vie par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est appréciable.
D'accord, parfait. Est-ce que tu as un petit truc à nous raconter qui t'a... Non.
Une anecdote,
ouais.
Pas spécialement, mais par exemple, j'ai une collègue de travail qui m'a invité pour son mariage.
D'accord.
Et, c'est la fête, il y a la bière là qui coule à flot. Ils ont des costumes, ils sont tous avec des chemises ou des robes, mais de toutes les couleurs, avec de la soie laotienne qui brille. Et c'est juste un feu d'artifice de couleurs et c'est assez impressionnant.
Ah ouais, je vais dire un truc horrible parce que moi aussi j'étais invitée dans un truc très festif, mais c'est un enterrement qui là-bas c'est très coloré, ils font la fête. Alors ils m'ont expliqué que c'est aussi parce que c'était une personne âgée et que du coup, pas qu'ils soient contents qu'elle parte, mais que voilà, que c'était le moment, donc voilà. Donc c'était un peu, c'était marrant de se retrouver dans un truc où en fait tout le monde fait la fête, ils mangent tous, ils boivent tous et on se dit, mais attends, on est un mariage ou un enterrement ici? C'est un peu bizarre.
Ok, nickel. Et juste pour terminer du coup cette émission, tu voulais nous parler de ton ONG.
Oui, Delphine. Tout à fait. Eh ben du coup, depuis que je suis rentrée, alors j'ai rencontré des personnes là-bas qui avaient, on va dire, les mêmes envies que moi sur l'entraide et solidarité qu'on peut retrouver. Et du coup, j'ai monté une ONG avec des gens sur place. Pour aussi pallier à des difficultés que j'ai pu rencontrer dans l'ONG avec laquelle je suis partie et pour pouvoir donner, on va dire, des réponses suffisantes à des bénévoles ou des étudiants justement qui voudraient partir au Togo. Donc voilà, on a une page Facebook qui s'appelle HUD Togo, si ça vous intéresse.
HUD Togo, ok,
voilà.
Ouais, vas-y, balance.
Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir. Et puis on propose soit des stages à l'étranger, soit du volontariat sur des missions humanitaires, soit des vacances, on va dire, éco-solidaires, c'est-à-dire en immersion, en fait, donc dans une famille d'accueil. On propose des cours de danse, cours de langue et cours de cuisine. Voilà.
Ok, parfait. Nickel. Et Cam, tu m'as fait un grand clin d'œil.
Non, je voulais faire un coup de pub aussi. Vas-y. Moi, j'ai mon père qui a monté une association il y a plusieurs années avec un ami d'enfance à lui, laotien, mais qui vit maintenant en Australie, qui s'appelle Lafael, A-F-A-E-L, ou l'éléphant blanc. Donc, c'est l'association franco-australienne pour l'aide à l'éducation aux enfants du Laos, en fait. Et donc, ils reconstruisent des écoles, ils donnent des moyens matériels, des cahiers, etc. Ils reconstruisent des bâtiments, ils ont fait un self gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens de manger, etc. Donc, voilà, tout ce qui tourne autour de l'éducation sur plein de différentes écoles en campagne. Voilà.
Ok, bah nickel. On va se faire l'agenda, vous restez avec moi. J'ai la toute dernière question que je pose à tous mes invités. Oui, t'as raison de faire cette tête-là, ils la font tous. À tout de suite. Ce soir, au Canadian Café, vous pouvez retrouver Sunflower. Et demain, pour ceux qui l'ont raté, vous pouvez retrouver le jour où les femmes ont perdu le droit de vote, ce soir aussi d'ailleurs, au théâtre Olympia, et c'est tarif réduit pour les étudiants, 8 euros. Et oui, aujourd'hui c'était un agenda très très court. Alors, la dernière question de cette émission. Face à vous, vous avez nos auditeurs. Je ne sais pas combien de personnes nous écoutent actuellement, d'accord ? Vous avez nos auditeurs dans un hangar, donc entre 1000 et 2, à peu près.
On doit voir ma mère.
C'est ça, ta mère et ma mère. et du coup, j'aimerais que vous leur disiez quelque chose qui vient de vous, mais qui n'a pas un rapport avec le Togo, avec les associations, avec quelque chose qui vient de vous et que vous auriez aimé crier à la terre entière, mais on ne vous avait pas encore donné la parole jusqu'à aujourd'hui. Merci Radio Campus, amen.
Soyez cool et faites attention aux personnes qui vous entourent.
Oh yeah.
Moi j'ai envie de dire le contentement est la plus grande des richesses et ni remords ni regrets.
Parfait, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous dans l'émission Sortez sur Radio Campus Tour 99.5. On se retrouve demain, même lieu, même heure, même endroit, avec presque les mêmes personnes. Merci à vous deux d'être venus.
Merci beaucoup.
Et puis à bientôt du coup.
Salut.
Salut.